Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigi misenya, omanyi, kobena.
It's okay, you know, it's okay.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I'll watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. Tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on a dock of the bay, wasting time.
Nous venons d'ouvrir cette nouvelle épopée des musiques noires avec un classique de l'histoire de la soul music. Sitting on the Dock of the Bay, interprété par Otis Redding, un standard paru peu après la mort du chanteur dans un album posthume édité le 23 février 1968. La disparition de ce grand personnage quelques semaines plus tôt avait évidemment endeuillé la planète soul tout entière, mais a aussi indirectement fait naître un magazine qui fête son cinquantenaire. Il s'agit de Soulbag. Pour évoquer les 50 ans de cette revue trimestrielle, nous avons convié son fondateur, Jacques Perrin, son actuel rédacteur en chef, Nicolas Ternier, et son directeur de la publication, Frédéric Adrian. Messieurs, soyez les bienvenus.
Merci.
Vous n'êtes pas trop de trois pour narrer l'épopée de ce journal spécialisé né en 1968. Il y a donc un peu plus de 50 ans, ce qui est un exploit, disons-le, dans le monde de la presse de nos jours. Avant que nous ne parlions du numéro anniversaire, le numéro 234, j'aimerais, Jacques Perrin, que vous nous expliquiez pourquoi Otis Redding fut le déclencheur de toute cette histoire.
Vous venez de l'évoquer, il venait de mourir. Nous avions ce projet avec quelques amis de lancer un magazine qui soit entièrement consacré pour nous aux musiques, disons, que nous appelions musique populaire afro-américaine. Et donc Otis Redding, qui était quand même notre héros, qui était à ce moment-là vraiment le plus grand chanteur de soul, sa disparition nous avait vraiment plus qu'attristés, et donc il fallait lui rendre hommage. Donc ce numéro 1, nous l'avions préparé avec d'autres idées en tête, mais lorsqu'il a fallu concrétiser la chose, c'est forcément le nom d'Otis Redding qui s'est imposé, et qui nous a fait chambouler complètement le sommaire de ce numéro 1.
Et alors le numéro 1 ne s'appelait pas Soulbag ?
Il s'appelait Super Soul, voilà. Alors c'est un numéro qui est sorti, lui, en mars 1968, donc trois mois après la disparition d'Otis Redding. Et coup de chance, si j'ose dire, c'est que la maison Barclay, qui distribuait les disques d'Otis Redding, donc les disques de la marque Stax, était très impliquée forcément dans cette démarche-là. Et quand on les a sollicités, ils ont tout à fait accepté de nous soutenir, non seulement financièrement, enfin plutôt d'un point de vue matériel que financier. C'est-à-dire qu'ils ont mis à notre disposition leur atelier d'oropographie, d'offset, ce qui nous a permis de sortir un magazine avec une couverture en couleur, ce qui était quand même assez luxueux pour l'époque, en 1968. Voilà.
Donc d'une certaine manière, Super Soul est le numéro zéro de Soulbag,
oui.
Puisque Soulbag sortira en décembre 1968.
Voilà. Alors Soulbag, le numéro 1 qui est sorti en décembre, lui, c'était fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire c'était renéoté. Nous n'avions même pas en propre une renéo. Nous utilisions celle de la mairie de Bagneux, qui abritait des réunions hebdomadaires que l'on organisait au sein du centre culturel de Bagneux. Et donc, on tapait des stencils à la machine à écrire et on allait imprimer ces stencils dans les cas de la mairie de Bagneux. Voilà. Et ce numéro 1 était consacré en grande partie à B.B. King, qui n'était pas alors très très connu en France, mais qui pour nous était quand même une figure très importante de la musique afro-américaine. Donc B.B. King pour le numéro 1 de Soulbag, je pense qu'on était quand même bien parti, oui.
Quel était le paysage de la presse écrite à l'époque ? Vous étiez les premiers en 1968 à vous lancer dans la soul et le blues.
Ben oui, c'est pour ça que nous connaissions cette presse musicale spécialisée en jazz ou en rock, mais le blues et la soul, il y avait une part fort réduite, et c'est pourquoi nous avons eu envie de lancer un magazine qui soit entièrement consacré à ces musiques, comme il en existait, par exemple, en Grande-Bretagne.
Est-ce que le blues et la soul étaient des musiques en vogue en France,
oui.
En 1968.
Ben oui, bien sûr. Des gens comme Otis Redding, on l'a déjà cité, mais James Brown, Percy Sledge, la soul était vraiment en vogue à ce moment-là, bien sûr.
50 ans plus tard, vous avez décidé, Nicolas Ternier, en tant que rédacteur en chef, de mettre à nouveau B.B. King en une pour le numéro anniversaire, et vous avez convié les journalistes de Soulbag à commenter 50 titres essentiels de l'épopée des musiques noires sélectionnés au fil des 50 dernières années. On y retrouve les plus grands, donc B.B. King évidemment, mais aussi Aretha Franklin, Al Green, les Temptations, Luther Allison, Prince, Sharon Jones, Mavis Staples et beaucoup d'autres. Comment avez-vous fait la sélection ? Sur quels critères ?
Ah bah c'était un bon casse-tête déjà, parce que résumer une année à un titre, c'est pas que c'est impossible, mais bon, on a relevé le défi. En fait, moi, ce que je voulais, c'était faire en filigrane, montrer un peu l'ADN du magazine des musiques qu'on aime bien, parce que c'est quand même très varié. Je me suis replongé dans les 50 ans d'archives de numéros que j'ai à mon bureau pour voir un peu, faire en sorte que le titre qu'on choisissait pour l'année en question, c'était quelque chose qui avait été défendu dès l'origine par Soulbag, par réécrire l'histoire en disant que ça on avait aimé, alors qu'en fait on n'avait pas aimé à l'époque. Et j'ai fait une première liste comme ça, et après j'ai sollicité toute l'équipe pour que chacun participe et se charge des titres qui les motivent les plus.
Frédéric Adrien.
Alors moi, comme je suis bon camarade, j'ai dit à Nicolas de me donner les titres qui restaient à la fin, les titres que les autres n'avaient pas pris a priori. Mais non, je crois que chacun dans la rédaction, et c'est un des éléments qui est majeur, à sa sensibilité, à ses goûts. Il y a des gens qui ont des goûts plus contemporains, des gens qui sont plus attachés à des choses anciennes, des gens plus attachés au blues, voire au blues rock, et des gens plus branchés soul, voire soul très contemporaine. Donc ça s'est fait assez naturellement, et je trouve que justement le fait qu'on puisse aller chercher 50 titres aussi différents les uns des autres et en faire quelque chose de commun, c'est vraiment l'ADN, comme disait Nicolas, du journal, c'est cette capacité d'abord à avoir des gens qui aiment, non pas un peu tout, mais des gens qui sont spécialistes de chaque style et qui ont une capacité à porter leur affection pour cette musique.
Comme il nous est impossible de diffuser ces 50 titres dans notre émission du jour, je vous ai demandé, messieurs, de choisir des albums que vous jugez majeurs dans le patrimoine musical afro-américain de 1968 à 2018. Commençons par vous, Nicolas Ternier. Quel disque vous paraît incontournable et pourquoi ?
Il y aura un album des Staple Singers qui est paru en 72.
Alors on rappelle déjà qui sont les Staple Singers.
Oui, c'est un groupe familial dont le père, Roebuck Staples, est né dans le Mississippi. Enfin, il a connu les plantations, il a travaillé dans les champs de coton. Il a eu plusieurs enfants qu'il a intégrés à son groupe pour jouer dans l'église essentiellement. Donc, ce qui est intéressant, c'est déjà il y a la dualité blues et gospel dans leur musique à la base qu'il y a toujours eu jusqu'à aujourd'hui avec Mavis Staples, la fille qui a eu le plus de succès ensuite. Et donc les Staple Singers, c'est un groupe, le père à la guitare et au chant, Pervis Staples, le fils unique qui chante, Cleota et Yvonne et Mavis, les trois filles qui chanteront dans le groupe. Et ça va vite devenir un... Il y aura deux leaders en fait dans le groupe, c'est le père, Pops, et Mavis Staples, Et ce qui est assez fort dans leur identité sonore, c'est le père qui a la voix la plus aiguë, la voix assez fine. Et Mavis Staples, qui dès ses 12-13 ans avait déjà une voix de...
De baryton.
Ouais, basse, quasi. Ouais, enfin, elle descendait vraiment dans les graves très profonds. Et c'est aussi ça qui a fait que son père la sollicitait plus que les autres. Et donc le groupe s'est enregistré dès les années 50. Ils ont eu un certain succès en développant un son qui était à cheval entre soul et folk. Enfin, ils reprenaient du Bob Dylan. Le père, Bob Staples, était proche de Martin Luther King. Ils ont été sensibles au mouvement des droits civiques et sont vraiment inscrits dans cette histoire-là aussi par leur musique.
C'est vrai que c'est un groupe militant. Et d'ailleurs, vous avez choisi un titre qui n'est pas anodin. Respect Yourself, les Staples Singers en 1972. Yourself, un message militant des Staples Singers en 1972. Et l'une des filles Staples, Mavis Staples, est toujours sur scène. Elle aura 80 ans en juillet. Et son dernier album, en date, Live in London, est déjà un incontournable de 2019. Est-ce que vous l'avez rencontré pour le magazine Soulbag au fil des années, Jacques Perrin, Nicolas Tournier, Frédéric Adrian ?
En ce qui me concerne, non. J'ai eu la chance de voir les Staples Singers sur scène. C'était à la Nouvelle-Orléans, le fameux concert Jazz Heritage, et ils étaient sous la tente gospel. Et là, je vous assure qu'il y avait une ambiance mais extraordinaire. Ça vous marque à jamais, ce genre de concert.
Ça devait être quelque chose, quand même. Frédéric Adrian.
Et on l'avait interviewé également par téléphone. Pas en vrai, même si je l'ai croisé dans des festivals, j'ai eu l'occasion de la saluer. On l'avait interviewé en...
2010. On avait fait une couverture sur elle avec un grand dossier, réalisé par Jacques et Frédéric, d'ailleurs. Toute l'histoire des Staples Singers retracée, et puis oui, une interview de Mavis qui venait de sortir un album sur le label Anti. Alors, en fin d'article, on se demandait justement si ça allait être un renouveau un peu de sa carrière, parce qu'elle avait déjà sorti un album produit par Ray Cooder sur ce même label quelques années avant. Et ce qui est réjouissant, c'est que quasiment 10 ans après, elle est toujours là, et elle enchaîne les disques de très très haute qualité. Il y a peu de personnes de sa génération qui sont capables de faire ça encore. Enfin, elle trouve des producteurs qui sont à son écoute et qui arrivent bien à sublimer ce qu'elle sait faire. Et là, donc, elle a enregistré un live. Elle a déjà un nouvel album produit par Ben Harper qui va sortir en mai.
Et en plus, c'est une super bonne cliente en interview. Quand même, il faut le dire, c'est quelqu'un qui adore raconter ses histoires. Une bavarde absolument phénoménale qui fait des imitations, qui va imiter Dylan, qui va imiter Prince, avec qui elle a enregistré également. Donc c'est toujours un grand, grand plaisir de pouvoir parler avec elle.
Elle considère Prince comme son ange gardien. Elle le dit et le répète souvent. Quelles sont les interviews dont vous êtes particulièrement fier et que les abonnés ont pu lire au fil des 50 ans ? Jacques Perrin.
Moi, je ne suis pas vraiment un intervieweur. Moi, mon rôle à Soulbag, c'était un rôle de coordination avant tout, de réunir une équipe, de la faire vivre, de la faire exister. Mais il m'est arrivé quand même de faire quelques interviews. Je garde notamment le souvenir d'une interview de Mickey Baker, grand guitariste de studio surtout, justement, un homme de l'ombre, qui a joué avec les plus grands, d'Elvis Presley à Ray Charles, etc., mais qui s'est établi en France fin des années 60, tout simplement parce qu'il trouvait que la ségrégation aux États-Unis était trop pesante pour lui. Il a préféré s'établir en France, et donc je l'ai même reçu chez moi par deux fois, et on a fait une très très longue interview, très intéressante. Ça, pour moi, c'est une interview marquante. Une, par exemple, aussi, forcément, avec Luther Allison, lui aussi, un artiste immense établi en France, que l'on a forcément repéré depuis ses débuts en France, puisque je crois que sa première tournée en France, c'était un Chicago Blues Festival, dont il était la vedette, et nous l'avions programmé à Bagneux, là où nous avions chaque année un concert en fin d'année. Voilà. Et donc Luther Allison, ce n'est pas son premier concert en France, mais c'est sa première tournée, nous l'avions programmé dans ce cadre-là, et ensuite nous l'avons bien sûr suivi tout au long de sa carrière, et j'ai eu le plaisir de faire chez lui d'ailleurs à Saint-Cloud une interview.
Frédéric Adrien, vous êtes le directeur de la publication de Soulbag. Quel est le rôle précis d'un directeur de la publication ?
Alors, c'est celui qui va en prison si on écrit des bêtises, déjà. C'est un rôle juridique à la base. Le rôle de directeur de publication, c'est vraiment un rôle technique pour le coup, c'est la relecture du journal. Le plus important pour moi, c'est pas obligatoirement ça. Ça, il faut bien que quelqu'un le fasse, et de l'équipe, c'est moi qui porte le plus régulièrement des cravates, donc on s'est dit, c'est moi qui allais prendre ce titre-là. L'essentiel du travail, c'est plus le travail d'animation de la partie associative, puisque le Soulbag, c'est porté par une association qui s'appelle le CLARB, Comité de liaison des amateurs de rhythm and blues, si je ne me trompe pas, qui est né en même temps que le journal, également à l'initiative de Jacques, qui est la structure porteuse du journal. L'activité essentielle de l'association, c'est évidemment l'édition, mais ça reste une association qui a une petite activité, qui a une assemblée générale, donc ça fait partie de mes responsabilités.
Dans le dossier des 50 meilleurs titres des 50 dernières années, vous avez retenu notamment Curtis Mayfield, Sharon Jones, Janelle Monáe. Mais pour cette émission, vous avez souhaité écouter un disque de B.B. King. Lequel et pourquoi ?
Alors, d'abord parce que c'est notre couverture, et puis parce que B.B. King, c'est pas par hasard que c'est lui qui fait la couverture il y a 50 ans. Parce que c'est quelqu'un qui a une importance constante sur les 50 ans. Il est décédé il y a quelques années, mais son influence est encore immensément perceptible. Jusqu'à la toute fin, même si les dernières années étaient peut-être un peu plus compliquées, a continué à avoir des productions absolument phénoménales. Donc ça a été très dur de choisir un disque. Je dis pas que je l'ai choisi au pif, mais je crois que j'ai pris le dernier que j'avais écouté au moment où on m'a posé la question. Donc j'ai choisi un album live au Cook County, qui est une prison à Chicago. Et c'est alors les disques live de B.B. King sont en général vraiment chouettes. Il y a le Live at the Regal, qui est probablement le meilleur live blues de tous les temps, mais qui n'entre pas dans le cadre temporel de la commande, puisqu'il est plus ancien. L'idée, c'était de choisir ce disque live parce que vraiment, il représente la force et l'intensité des musiques afro-américaines. C'est une leçon sur la totalité de la musique. C'est une leçon de tension détente, de moments très forts, et puis de moments de recul, enregistré devant un public qui est en feu. Alors, je ne sais pas quel morceau vous avez choisi de passer.
Sur The Thrill is Gone.
Ce n'est pas la pire idée qui soit. Mais il faut acheter l'album en entier, rien que pour les deux premières minutes d'introduction, où on entend une brave dame qui vient accueillir donc les gens qui vont assister au concert, qui sont des prisonniers. Hein, et la première chose qu'elle fait, c'est leur demander d'applaudir le juge de l'État, le directeur de la prison. Et donc, on entend ces huées absolument magnifiques, mais ça entre dans cette logique tension des temps. C'est-à-dire qu'on sent qu'il y a l'agacement très très fort des personnes qui sont en face, qui n'ont pas obligatoirement envie d'applaudir le directeur de prison. Et d'un seul coup, il y a l'espèce de libération de l'arrivée de B.B. King et de la musique qui commence. Ça, je trouve que ça représente quelque chose de fort sur la force des musiques afro-américaines.
Enregistré le 10 septembre 1970 dans la prison de Cook County dans l'Illinois, voici The Thrill is Gone, B.B. King. The Thrill Is Gone, B.B. King, le 10 septembre 1970 à la prison de Cook County aux États-Unis. J'imagine que vous avez dans vos archives quelques belles interviews du roi du blues, messieurs.
Au moins une interview où il parle de Django Reinhardt, de
Ah oui, dans les années 80. Alors,
dans les années 80, ouais. Mais B.B. King était quelqu'un de très entouré, une très grande vedette, qui ne donnait pas obligatoirement facilement accès aux journalistes, qui se comprend très bien parce qu'il était très très pris, très occupé sur la route en permanence.
Et très entouré aussi.
Et très protégé par des gens qui ne voulaient pas qu'il perde son temps avec des...
Mais ce que je veux dire, c'est que B.B. King était un lecteur de Soulbag, pendant plusieurs années en tout cas, parce que moi j'ai eu la chance de le rencontrer dans sa loge, où il y avait d'ailleurs Memphis Slim, où il y avait Manu Dibango qui était là aussi, présent, ils semblaient bien le connaître. Donc on s'est présenté, on a parlé, on n'a pas fait une interview, et je lui ai demandé s'il souhaitait, j'ai bien sûr donné le dernier numéro paru, je lui ai demandé s'il souhaitait le recevoir, il m'a dit oui, et il m'a donné sa carte avec son adresse pour le recevoir. Voilà.
Donc B.B. King était abonné à Soulbag.
Il était un lecteur, hein. il avait un service, comme on dit.
Ouais, voilà. Il payait sa cotisation tous les mois. Est-ce qu'il y a des interviews qui dorment dans vos placards et qui sont restées inédites, ou qui mériteraient d'être republiées si elles datent d'il y a très 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 longtemps? Jacques Perrin.
Dans mon souvenir, non, tout ce qui était important, on l'a publié. Il y a peut-être des interviews que l'on n'a pas publiées parce que justement, elles étaient incomplètes, mal foutues, soit l'intervieweur, moi-même ou d'autres, n'avaient pas posé les bonnes questions, ou l'artiste n'avait pas envie, peut-être pas dans un bon jour, et donc bon, dans ces cas-là, il vaut mieux s'abstenir. Voilà.
Le taux de réactivité d'un journal papier est assez lent quand il y a un événement important. Comment fait-on pour rester dans l'actualité quand la périodicité est de 3 mois, Nicolas Tournier?
Oui, d'autant plus pour un trimestriel. Donc nous, on n'a que 4 numéros par an, ce qui est très peu. On a un site internet alimenté quotidiennement. On compense la périodicité par ce site qui est quand même assez bien alimenté.
Soulbag.fr. Par exemple, le 2 avril 2019, c'est le 80e anniversaire du regretté Marvin Gaye. 2019, c'est aussi le 60e anniversaire du label Tamla Motown. Est-ce que vous parvenez à vous faire l'écho d'une manière ou d'une autre au moment où vous écrivez, au moment où vous fabriquez très en amont votre magazine, de tous ces rendez-vous?
Sur le site, on a pu très rapidement sur le site apporter notre point de vue sur une réédition d'un soi-disant album inédit de Marvin Gaye. Mais là, je vais laisser Frédéric Adrian vous en parler plus précisément, parce que c'est lui le spécialiste.
Ça m'a fait bondir, puisque... Enfin, bondir, relativement. Ça m'a beaucoup agacé, puisque c'est présenté dans la démarche commerciale, enfin les communiqués qu'on a reçus au journal, mais qu'on voit aussi dans les journaux, comme un album perdu de Marvin Gaye. Or, c'est pas un album, et c'est pas perdu, donc ça finit par faire beaucoup. C'est pas un album, puisque c'est une accumulation de morceaux issus de différentes séances sur une période de plus d'un an, avec des producteurs différents. En fait, après What's Going On, donc le grand album de Marvin Gaye, il ne sait pas quoi faire. Motown le fait faire des tests avec toute une série de producteurs. Il enregistre 2 titres par-ci, 2 titres par-là. Il y a même des choses qui ont été enregistrées où il n'a jamais posé sa voix dessus, donc il y a encore des bandes qui existent. Ça n'est pas un album, puisque à partir de What's Going On, Marvin Gaye travaille toujours avec un seul producteur sur chaque album. Donc ce truc-là ne correspond pas à un album. Il n'a jamais été prévu pour être sorti comme ça. Et puis, c'est pas perdu du tout, puisque tout le contenu de l'album était déjà connu, existe sur des CD qui sont en vente beaucoup moins cher que le 33 tours qui va sortir. Je suis toujours content de voir le nom de Marvin Gaye dans l'actualité. Je suis toujours content de se dire il y a des gens qui vont aller écouter du Marvin Gaye que probablement ils ne connaissent pas, pour ceux qui n'ont pas acheté les éditions un peu de luxe des albums. Mais je trouve dommage que le prétexte soit de raconter une histoire un petit peu fausse autour de la musique de Marvin Gaye. Il y a plein de trucs à raconter sur Marvin Gaye, il n'y a pas de difficulté là-dessus, surtout on va fêter son anniversaire bientôt. Je trouve dommage d'avoir été inventé cette histoire d'album perdu, qui est un gimmick commercial qui n'est pas tout à fait exact.
Jacques Perrin, vous qui êtes le président fondateur du journal Soulbag, dont nous célébrons le cinquantenaire aujourd'hui, comment avez-vous vécu son évolution ?
Je l'ai accompagné pendant de longues années, de la création en décembre 68 à 2007, lorsque j'ai passé la main à Nicolas. On a évoqué les débuts René Hauté, ensuite on a été imprimé, ensuite la couleur est arrivée, après la PAO nous a ouvert de nouvelles perspectives. Ça, ce sont des évolutions techniques. Le contenu, il a toujours été là, le contenu. C'est dans la forme que le magazine a aussi beaucoup évolué. Et puis donc, à partir du moment où Nicolas a pris les choses en main, bien entendu, il y a imprimé sa marque, il y a imprimé... Et donc, il est beaucoup plus jeune que moi, cela va sans dire. Donc, c'est quelqu'un qui, pour autant, possède la culture de ses musiques totalement. Soulbag, même si les sujets abordés sont moins dans mon ADN, bon, je comprends parfaitement qu'il soit actuellement au sommaire de Solbach, sachant que pour autant, l'histoire de cette musique n'est pas du tout occultée.
Et puis elle continue, elle se poursuit, elle évolue sans cesse.
Voilà.
Est-ce qu'il y a des artistes devenus célèbres que vous avez totalement sous-estimés ?
Sans doute, mais forcément. Mais je préfère retenir ceux que l'on a accompagnés. Non, mais bien sûr, comme Mighty Mo Rodgers, par exemple. Mighty Mo Rodgers, en 99, il a fait un disque à compte d'auteur, parce qu'il n'avait pas trouvé de label pour le produire. Ce disque, un de nos collaborateurs, Jean-Luc Vabre, se l'est procuré, l'a trouvé extraordinaire, lui a mis la note maximale dans l'échelle des notations de Solbach, c'est-à-dire le pied, voilà, le disque qui, pour nous, correspond à un 5 étoiles à peu près, s'appelle Le Pied. Donc son disque autoproduit, il a obtenu ce pied. Ce disque, moi je l'ai adoré aussi, si bien que, et Solbach n'y est pas tout à fait étranger, un an après, ce disque était pris en charge par une major qui était Universal, qui le faisait reparaître. Mighty Mo Rodgers venait en tournée en France, notamment à Cognac Blues Passion. Il a remercié chaleureusement Solbach sur scène pour ce coup de pouce, en tout cas pour sa carrière française. Mais je crois d'ailleurs que c'est sa carrière française qui l'a aidé à avoir aussi une statue aux États-Unis, qu'il n'aurait peut-être pas eu sinon.
Écoutons justement cet album de 1999, Blues is my wailing wall, le choix de Jacques Perrin, l'un de nos invités aujourd'hui dans l'épopée. Voici Mighty Mo Rodgers.
Blues is my wailing wall. Blues is my wailing wall. Blues is my wailing wall. I had a call. I hear it call to me, I hear it call. When a righteous Jew goes to his road, they go to the wailing wall. I got a water sound so profound, I can always hear it call. I can always hear it call.
C'était il y a 20 ans, Mighty Mo Rodgers faisait paraître Blues is my wailing wall et Solbach s'en faisait déjà l'écho. Jacques Perrin, Nicolas Turnier, Frédéric Edrian, merci mille fois d'être venu célébrer les 50 ans de Solbach avec nous. Et comme un anniversaire ne se fête pas sans quelques bulles, ouvrons ensemble cette bouteille de champagne. Vous êtes prêts ?
Oui.
Oui, attention. Nous venons exactement à l'instant même d'exploser le plafond du studio. Joyeux anniversaire Solbach et tous nos vœux de réussite pour les 50 ans à venir.
Et merci pour l'invitation.
C'est un plaisir. La semaine prochaine, nous continuerons à célébrer l'épopée des musiques noires dans toute sa diversité avec le chanteur camerounais Gino Sitson qui nous présentera son nouvel album Echo Chamber. L'émission festive du jour était réalisée par notre chère Nathalie Laporte. Passez une bonne semaine. On se retrouve dans 8 jours, dans 30 secondes, le journal.